Hervé.
Bonjour.
Je le redis parce que le micro vient de s'allumer. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Dans la presse de ce matin, un gouvernement a fait adopter hier une loi d'urgence pour réduire l'immigration malgré une forte opposition parlementaire. Ça ne se passe pas en France, mais au Royaume-Uni.
Oui, le Premier ministre anglais Rishi Sunak a réussi in extremis là où Gérald Darmanin et Emmanuel Macron ont échoué. Le texte adopté par la Chambre des communes est celui qui prévoit d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement en Grande-Bretagne. Le Premier ministre a senti le vent du boulet, écrit le correspondant du Figaro. Son texte était attaqué sur sa droite comme sur sa gauche. L'aile droite des Tories trouvait le texte trop mou, tandis que les centristes du parti et l'opposition le trouvaient trop radical. Ça vous rappelle quelque chose? Ouest France rappelle que le plan rwandais était une idée de Boris Johnson qui avait pactisé avec le Rwanda en 2022. Entre-temps, la Cour suprême britannique a bloqué le processus et jamais les arrivées de réfugiés en Grande-Bretagne n'ont été aussi nombreuses, dit Ouest France. 53 000 au premier semestre 2023, ça représente plus 17%.
De notre côté de la Manche, Emmanuel Macron cherche une porte de sortie politique après le rejet lundi du projet de loi de Gérald Darmanin.
Et dans vos journaux ce matin, le mot-clé a changé. On est passé du camouflé d'hier à l'impasse d'aujourd'hui. Comment sortir de l'impasse? La question étant une de l'Opinion, du Figaro et du Républicain Lorrain. Les Échos y ajoutent la crainte du délitement. Libération parle de blocage. Selon le Parisien, le président de la République a prononcé un autre mot lundi soir devant Gérald Darmanin. À ce rythme-là, a-t-il dit, il va falloir un moment qu'on se pose la question de la dissolution. C'est le mot dissolution donc. Mais hier soir, lors d'un dîner à l'Élysée avec les poids lourds de la majorité, Emmanuel Macron a enjoint ses troupes à chercher un compromis qui ne brise pas la majorité et on ne parlait plus de dissolution.
Et résultat, les Républicains retrouvent des couleurs et se voient déjà imposer leur réforme de l'immigration.
La droite domine au sein de la commission mixte paritaire qui va devoir élaborer le nouveau texte. Dans le Figaro, le président des députés LR, Olivier Marleix, savoure l'immense avantage donné à la droite par la situation. Nous sommes en position de force pour négocier, savoure-t-il. Libération décrit les députés républicains ravis de leur petit meurtre entre anciens amis après avoir infligé un cuisant revers à Gérald Darmanin. Mais dans le même journal, Jean-François Copé, toujours membre des Républicains, reproche à ses amis d'avoir voté avec le RN pour bloquer le texte et tempère le triomphalisme ambiant. La vérité, dit Jean-François Copé, c'est qu'il n'y a plus de groupe LR. Près d'un tiers du groupe n'a pas voté la motion de rejet. Et certains ne l'ont fait qu'à contre-cœur, par loyauté. Certains vivent dans le mythe que notre parti va se refaire, ajoute Jean-François Copé. C'est impossible. On n'est jamais trahi que par les siens.
Et pendant que les politiques bricolent, l'artisanat décolle. C'est une sacrée transition que vous m'avez écrite là. Le Parisien aujourd'hui en France souligne la forte augmentation des créations d'entreprises dans ce secteur.
L'économie française n'est pas seulement celle des grands groupes du CAC 40. Sur le million d'entreprises créées chaque année, écrit le Parisien, un bon quart relève de l'artisanat. Selon une étude de l'Institut supérieur des métiers, révélée par le journal, 250 000 entreprises artisanales se sont enregistrées en 2022. Record historique. Les reconversions dans les métiers de la main et de la tradition ont été favorisées par le développement de l'apprentissage. Elles se sont accélérées depuis le Covid et elles participent à la revitalisation des territoires, explique le journal. Les secteurs les plus en progression sont le nettoyage des bâtiments, les soins de beauté, la maçonnerie, l'électricité et les taxis.
Eh bien, je dis vive les métiers de la main. L'exact contraire de l'artisanat, c'est l'intelligence artificielle. Et voilà qu'Amazon, le géant de la distribution, est confronté à l'explosion des livres écrits grâce au recours de l'IA.
C'est à lire dans la matinale du Monde et dans le Monde de cet après-midi daté de demain. Pour éviter les abus, Amazon vient de limiter à 3 livres par jour le nombre d'ouvrages publiés sur sa plateforme de lecture Kindle par un même auteur. Le groupe américain oblige à mentionner si le livre a été écrit via l'intelligence artificielle. La raison, c'est que le maniement très simple désormais de la technologie provoque une déferlante de pseudo-auteurs qui fabriquent des livres à l'appel, ou plutôt à la chaîne. En février, l'agence Reuters recensait déjà plus de 200 ouvrages écrits par ChatGPT, aussi bien des manuels techniques que des livres pour enfants, précise Le Monde. L'article explique que le nombre de logiciels de rédaction de livres assistés par intelligence artificielle a lui aussi explosé, et que certains de ces faux auteurs fabriquent en plus des recommandations bidons pour stimuler les ventes de leurs faux livres. Amazon promet d'empêcher cela aussi, sans doute grâce à l'intelligence artificielle.
Si on limite à 3 livres artificiels par jour pour un même auteur, ça fait quand même 90 livres
par
mois.
Beaucoup, oui.
Dis donc,
il faudra peut-être des faux lecteurs.
Alors, faut-il solliciter l'intelligence artificielle pour choisir le nom des stations de métro ? Une pétition est lancée pour s'opposer à ce qu'une future station de métro parisien soit baptisée du nom de Serge Gainsbourg.
C'est le Parisien qui nous l'apprend. La prolongation de la ligne 11 du métro va entraîner la création de 6 nouvelles stations en 2013. Le maire des Lilas avait choisi d'en appeler une Serge Gainsbourg, en hommage bien sûr à cette chanson.
Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin...
Chanson inoubliable, mais fureur d'une militante féministe, Marie G, qui proteste, tout en restant prudemment anonyme. G, c'est l'initiale de son nom. Peut-être qu'elle a peur elle-même d'être visée par une pétition. Le texte de la sienne dénonce, je cite, « les violences envers les femmes et les tendances pédocriminelles de Gainsbourg qui sont, paraît-il, de notoriété publique ». La dame s'appuie, pour le dire, sur le texte de deux chansons méconnues de 1973, dit le Parisien. Une dessinatrice de BD, Laudine, s'est jointe à elle et qualifie, dans Le Parisien toujours, Serge Gainsbourg de « monumentale ordure ». Rien que cela, la pétition a recueilli 3500 signatures, mais ni la mairie des Lilas, ni Île-de-France Mobilité n'ont réagi. Elles ont bien fait, probablement. En attendant, on peut se demander s'il est acceptable que des stations déjà existantes s'appellent Stalingrad ou Austerlitz, batailles qui ont fait beaucoup de morts, ou Cardinal Lemoine, ce qui n'est pas très laïque, sans parler de Félix Faure, mort à l'Élysée dans une posture peu présidentielle. Je vous laisse y réfléchir en écoutant Serge Gainsbourg.
Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil.
Tout le contraire d'Hervé Gattegnaud, le gars qu'on croise et qu'on écoute, en fait.
Oh, ça, c'est hein, gentil.
Chaque matin, la revue de presse, vers 8h30. Et vive Serge Gainsbourg, on va peut-être en reparler avec nos esprits libres. Radio Classique.